Hello à tous, c'est Ludic, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'univers d'Elden Ring, et une vidéo un peu différente puisqu'on va se retrouver sur un format un peu plus court que d'habitude et qui va me permettre de rentrer vraiment en détail sur des points précis de l'histoire, et en l'occurrence aujourd'hui on va évoquer le peuple passionnant des albinoriques. Ce nouveau format, plus condensé, va donc me permettre de revenir sur des éléments du lore comme la nuit des couteaux noirs, les vives jarres, ou le château de Vent Hurlant par exemple, mais avec plus de détails qu'à l'accoutumée. Je vous rassure, il y aura toujours des vidéos plus thématiques sur un format plus long, comme celles qui doivent arriver par exemple sur Mikaela ou sur Godric. J'espère donc que cette nouvelle formule va vous plaire, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, et vous le savez, le meilleur moyen de me soutenir et de ne pas louper les prochaines vidéos, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous ai tout dit, je vous laisse donc avec cet épisode spécial du lore d'Elden Ring sur les albinoriques. J'avais eu l'occasion de vous en parler déjà dans ma vidéo sur Rani et la famille Caria. L'origine des albinoriques est à aller chercher dans les cités éternelles et le peuple mythique des Nocriens. J'émettais alors l'hypothèse que les albinoriques puissent avoir été conçus par ces derniers en se basant sur un mélange d'ADN entre les humains et les géants. Pour appuyer mes propos, j'évoquais la relation qui existait à cette époque entre les astrologues, c'est ainsi qu'on qualifiait les sorciers de l'époque, et les géants de feu, qui étaient alors leurs voisins. En ces temps anciens, les cités éternelles étaient à la surface, et les Nocriens vouaient alors un culte à une lune noire, portant le nom aujourd'hui de lune de Noxtella. Lune noire contre laquelle Rani fut mise en garde, par sa mentor la sorcière des neiges. Important alors de bien différencier la pleine lune, adulée par Rennala et les Caria, de la lune noire des Nocriens, considérée comme hérétique et qui a inspiré à Rani le futur âge des étoiles. Les Nocriens étaient alors les dépositaires d'une magie surpuissante, capable de cloner leurs semblables via la technologie des mimiques et des larmes d'argent. Des femmes guerrières, les Noctelames, représentaient alors l'élite de cette société, ce qui fait des Nocriens un peuple profondément matriarcal. Ils vénéraient une reine, que l'on peut voir assise sur son trône. Cette reine pourrait-elle être celle mentionnée sur le talisman de l'astrologue, une jeune astrologue ayant poursuivi les étoiles? J'ai du mal à y croire, car il y est fait mention de la pleine lune et non de la lune noire. Il pourrait donc tout aussi bien s'agir de Rennala. Sauf si on part du principe qu'à l'époque, une scission existait peut-être déjà entre les partisans de la pleine lune et ceux de la lune noire. Quoi qu'il en soit, cette reine finit par mourir, et les Nocriens et leurs disciples albinoriques perdirent leur guide. Ils envisagèrent alors de cloner leur reine via les larmes d'argent, et c'est potentiellement cette seconde reine jumelle que l'on aperçoit à Lincel. À Nocron, tout comme au pied de cette reine, vous pouvez apercevoir de nombreux albinoriques qui semblent pétrifiés, tous d'une taille différente, ce qui appuie selon moi cette idée selon laquelle ils possédaient du sang de géant. Cela expliquerait pourquoi ils ne peuvent pas, pour la plupart, tenir sur leurs deux jambes, et se déplacent très difficilement. Ces albinoriques de première génération, pensés pour ressembler aux humains, étaient dotés d'une espérance de vie relativement courte, peut-être pour les empêcher de se reproduire trop rapidement et de supplanter les Nocriens. Après la mort de leur reine et l'avènement de l'Ordre d'Or, que sont alors devenus ces albinoriques de première génération? Possible que l'Ordre d'Or et le fait que les cités éternelles deviennent des cités hérétiques les aient obligés à se trouver un nouveau but. Mais on peut aussi supposer que l'avènement des races météoriques, des seigneurs d'Albâtre et des rejetons du vide comme Astel, les ont forcés à quitter leur terre natale pour se trouver une nouvelle terre d'accueil. Parmi ces albinoriques, on peut citer les plus connus, comme Loretta, l'Athéna, Pidia ou encore le vieil Albus. Mais évoquons d'abord la suite, l'avenir et la création des albinoriques de deuxième génération, que j'attribue à l'académie de Raya Lucaria, bien après l'avènement de l'Arbre-Monde. Impensable alors de reproduire les erreurs du passé. Ces albinoriques ne devront pas ressembler aux humains, et être beaucoup plus fonctionnels que leurs aînés. Créatures de petite taille, dotées de deux yeux noirs de jet globuleux et d'une face de crapaud, ces albinoriques sont des créatures purement magiques, ayant été pensées pour servir les humains, protéger l'Académie et ses environs. Il est intéressant de constater qu'à l'instar de l'Académie, une hiérarchie existe au sein même de ces albinoriques de deuxième génération. Les plus habiles d'entre eux, capables de lancer des sorts, sont dotés d'un bâton. Les plus jeunes manient une hallebarde et un bouclier, tandis que ceux dotés d'une moindre dextérité sont affublés d'un gourdin. À la suite de l'éclatement et des conflits qui ont parsemé l'entre-terre, leur destin a alors suivi celui de leurs aînés. Privés de but, de guide, ils ont commencé à errer et à chercher une nouvelle terre promise. Amusant de constater que parmi eux, certains ont été recrutés par Mog le Seigneur de Sang. Ce sont les albinoriques de couleur rouge dont je vous avais parlé dans la vidéo dédiée à Mog. Mais globalement, vous en croiserez un peu partout, et notamment assez loin dans les champs de neige consacrés, mais ça on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Revenons à nos albinoriques de première génération et à leur destinée. Privés de leur terre natale, ils partirent alors en pèlerinage dans l'optique de trouver une nouvelle terre susceptible de les accueillir et potentiellement une nouvelle divinité qui pourrait les guider. Il est important de voir les albinoriques comme un peuple profondément religieux, qu'on pourrait presque qualifier de liturgique, un peuple ayant besoin de vouer un culte, d'avoir un guide, une divinité à suivre. Ils envisagèrent pendant un temps que l'Arbre-Monde pourrait être cette divinité, et que Leyndell serait donc leur potentielle nouvelle terre promise, mais malheureusement, ils ne parvinrent jamais à s'y établir, ce qui est compréhensible quand on lit la description du caillot sanguin d'Albinoric. Étant des êtres vivants façonnés par les humains, ils sont considérés comme des impuretés, privés de la grâce de l'Arbre-Monde. Vint alors l'avènement de Mikaela l'Empyréen, en tant que potentiel dieu de ce nouveau monde. Comme je pouvais vous l'expliquer dans ma vidéo sur Malenia, après la création de l'Arbre Sacré, Mikaela acquit une telle puissance qu'il fut considéré à l'égal d'une divinité extérieure. Un certain nombre de races entreprirent alors de le rejoindre et de voyager jusqu'à l'Arbre Sacré, et parmi eux, les albinoriques. C'est dans cette optique que Loretta, chevaleresse royale des Caria et l'une des plus puissantes albinoriques, entreprit de quitter son poste pour assurer la protection de Malenia et Mikaela. Elle en conclut alors que l'Arbre Sacré était la seule possibilité de salut pour son peuple et le seul moyen pour eux d'entrevoir enfin la paix. Il est intéressant de constater, en lisant la description du bouclier miroir en argent, que son origine albinorique a toujours été considérée comme une absurde rumeur, ce qui explique qu'elle puisse avoir été nommée au poste de chevaleresse royale, chose sûrement impensable à la base pour une albinorique. Le bouclier évoque également la forme d'une gouttelette de rosée sacrée, ce qui, vous le verrez plus tard, n'est pas anodin, car les albinoriques semblent naître à partir d'une goutte. C'est probablement à cette époque que les albinoriques entrèrent en possession d'une moitié du médaillon de l'Arbre Sacré, permettant d'activer l'ascenseur menant à la cité liturgique d'Ordina et à l'Arbre Sacré de Mikaela. Malheureusement, après l'éclatement, le départ de Malenia et l'enlèvement de Mikaela, les plans de Loretta de mener tous les albinoriques vers Elphael tombèrent à l'eau, et alors qu'elle resta sur place pour y assurer sa fonction, ses aînés albinoriques, et parmi eux le vieil Albus, entreprirent de créer dans un recoin sombre de l'Iurnia le village des albinoriques, censé assurer leur salut, du moins pour un temps.
Wait then, you're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me, I am Albus, an Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the cursemonger's hands.
Persuadés d'avoir enfin trouvé la paix, les albinoriques ne virent pas venir l'ambition démesurée d'un personnage que vous connaissez déjà bien, Gideon Ofnir, alias Gideon l'Omniscient. Le sans-éclat, soucieux de récupérer une partie du médaillon de l'arbre sacré, qui lui permettrait d'accéder à Malenia, ordonna l'attaque du village des Albinoriques par un tueur de réprouvés, manifestement à son service. C'est d'ailleurs cette attaque qui ouvrira les yeux à sa fille adoptive Néphilidou, que vous croiserez devant un tas de cadavres fumants à l'entrée du village. Elle comprend alors que son père, guidé uniquement par son ambition, n'a que faire d'elle, et la déchoira de son titre de fille adoptive, ce qui la plongera dans une profonde dépression. La majorité des albinoriques furent massacrés lors de cette attaque, à l'exception du vieil Albus qui parvint à rester caché et à conserver la fameuse moitié du médaillon de l'arbre sacré qu'il nous remettra avant de rendre son dernier souffle. Mais au cours de cette attaque, Gideon fit également la connaissance de l'Athéna l'albinorique, à qui il tenta de soutirer des informations, et il fut directement responsable, d'après les dires de cette dernière, de la mort de son fidèle loup et compagnon, Lobo.
My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all albinorics.
L'Athéna, une albinorique réputée pour son habileté au tir à l'arc magique, refusera de donner toute information à Gideon. Vous pourrez alors la rencontrer, en traversant la grotte cristalline du lac, au sud de Liurnia. Elle y a trouvé refuge aux côtés du cadavre de son fidèle compagnon Lobo, signifiant loup en espagnol, et elle refuse de le quitter. Si vous lui montrez la moitié de médaillon que vous a remis le vieil Albus, elle acceptera de vous faire confiance et deviendra de plein gré un esprit vous accompagnant et pouvant être invoqué au combat. Tout ce qu'elle vous demande en retour est de la mener au champ de neige consacré, aux portes de l'arbre sacré de Michaela.
Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will fight at your side.
L'Athéna est en réalité une albinorique bien particulière, membre d'un groupe de guerrières se battant à dos de loup à l'arc magique, et ayant pris part au pèlerinage de Loretta vers l'arbre sacré. Vous pourrez croiser un certain nombre de ces guerrières, en approchant de la cité liturgique d'Ordina. Vous y verrez d'ailleurs également des albinoriques de deuxième génération cherchant leur chemin. L'adjectif liturgique qualifie tout ce qui a trait au culte, à la religion. On peut donc en conclure que la cité magique d'Ordina a été conçue comme une protection pour l'arbre, mais aussi comme un témoignage du respect et de l'admiration vouée à Michaela. Il est également intéressant de constater que les albinoriques femmes sont les seules à véritablement avoir une apparence correcte, proche des humains, au contraire des albinoriques hommes qui sont imparfaits, ce qui fait de ces albinoriques de première génération une société profondément matriarcale également, au même titre que les Nocriens ou les Numènes, la race d'origine de Marika. Autre anecdote amusante, si vous invoquez l'Athéna à proximité d'un loup blanc, elle se mettra à le chevaucher et gagnera alors en puissance et en mobilité. Le véritable objectif de l'Athéna est de retrouver une jeune albinorique bien précise, du nom de Philia, sur qui semble reposer le destin de son peuple. En vous rendant aux ruines cléricales, vous tomberez sur cette albinorique d'une taille assez conséquente, et l'Athéna fera alors son apparition. Elle lui remettra alors la goutte nourricière, un objet semblant tenir le rôle de codex, renfermant le code génétique de tous les albinoriques. Ayant accompli sa mission, l'Athéna vous demandera de retourner l'inhumer auprès de son fidèle ami Lobo. On peut donc aisément imaginer que dans le futur, grâce aux actions de l'Athéna, une nouvelle génération d'albinoriques verra le jour, la troisième. Une génération libérée de toute entrave, dédiée à aucun rôle, ni au service d'aucune divinité. Un peuple libre d'écrire sa propre histoire, et qui, espérons-le, pourra enfin fouler du pied sa terre promise.
Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished, I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Beside Lobo, my dear wolf.